Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cordialement, Zoé.
Petit trigger warning pour ceux qui m'écoutent. Je vous préviens juste, on va aborder des sujets qui évoquent la mort. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous laisse changer d'épisode et sinon, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode du podcast. Avant toute chose, faut que je vous avoue quelque chose chez moi. Je sais pas si vous aussi, mais quand dans la rue, je vois un camion de pompiers, de police ou le SAMU passer, j'ai qu'une envie, c'est de les suivre et de savoir quelle intervention ils vont faire. Alors évidemment, je le fais pas parce que voilà, je suis pas folle et j'ai quand même du savoir-vivre, mais j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui une personne qui fait ça tous les jours puisqu'elle est littéralement infirmière urgentiste. C'est Anne-Lise qui travaille dans un service d'urgence en Belgique, qui va nous raconter son quotidien entre vie à l'hôpital, sortie d'urgence à l'extérieur, histoire choquante et rencontres improbables. Bienvenue Anne-Lise dans mon podcast. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui es-tu, ce que tu fais dans la vie et voilà, qu'on ait un petit portrait de toi.
Alors, je m'appelle Anne-Lise, j'ai 24 ans. Je suis une Française expatriée en Belgique depuis maintenant quelques années et ça fait un an et demi que je suis infirmière en soins intensifs et aide médicale urgente.
Alors là, tu nous as dit les métiers dans ton grand mot, mais ça veut dire quoi en gros ce métier pour les gens qui n'ont pas les termes?
En fait, je suis infirmière. Ça fait 2 ans que je suis sortie de l'école d'infirmière et j'ai fait une année de spécialisation pour travailler soit dans les soins intensifs, soit dans un service d'urgence. En Belgique, en tout cas, c'est une spécialisation qui est nécessaire parce que ça apporte tout un tas de connaissances que tu n'as pas quand tu sors de l'école d'infirmière. Moi, j'ai décidé de partir dans le service d'urgence parce que c'est ça qui m'a boosté quand j'ai fait mes stages là-bas, quoi.
Ok, donc t'as fait des stages. T'en as fait combien là-bas?
J'ai fait 3 stages dans les soins intensifs et 4 en service d'urgence, je pense.
Ok, ça marche.
Plus ou moins.
Et du coup, c'est quoi les missions dans un service d'urgence, les différents... J'imagine qu'il y a plusieurs corps de métier dans un service d'urgence.
Ouais, en fait, on fait des journées, enfin tu sais, on n'est pas tous là en même temps à l'hôpital, donc on fait des journées en 7h30 dans mon hôpital à moi.
Ok.
Et par chaque poste, on est 11 ou 12 infirmiers, ça dépend un peu du quota du jour.
Ok.
Et chaque jour, on a un rôle différent. Donc t'as par exemple une infirmière qui va gérer tout ce qui est la petite traumatologie, genre refaire des sutures, des plâtres, faire des pansements ou des soins comme ça. T'as 3 ou 4 infirmiers qui font des prises en charge plus globales, genre lancer des prises de sang, faire des sondages urinaires, faire des électrocardiogrammes. Enfin, vraiment, quand un patient il vient pour quelque chose de plus profond et que t'as besoin de lancer beaucoup d'examens pour savoir ce qu'il a.
Ok.
T'as 2 infirmiers qui sont dédiés à ce qu'on appelle le tri. Donc, c'est-à-dire que t'en as un qui est, on appelle ça à l'avant, mais il est au niveau de l'accueil. Il va recevoir les patients de la salle d'attente.
Ok.
Il va faire le dossier. Demander bah, pourquoi vous venez aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme symptômes. Et c'est lui qui va dire, ok, bah, vous retournez en salle d'attente et après c'est telle infirmière qui va vous prendre en charge.
Okay.
Il est parti en fait dans le service, dans quel secteur il sera par la suite. Et t'as le deuxième infirmier du tri qui lui il est au niveau de l'accueil ambulance et il reçoit les ambulances par une. Et c'est lui, pareil, à nouveau, il fait le dossier, il veut savoir bah, pourquoi est-ce que vous avez appelé l'ambulance, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez fait un malaise ou des trucs comme ça.
Ok. Ah, c'est pas l'infirmier qui est dans l'ambulance qui fait le dossier et
ouais,
tout,
non.
C'est...
Ok. Après, en Belgique, c'est différent. Par rapport au système français, on a les ambulances qui viennent, et là, c'est 2 ambulanciers qui sont dedans, qui sont juste... C'est des pompiers. Ils viennent de la caserne.
Ok.
Ils font des missions normales. Genre, un monsieur qui a fait un malaise chez lui, il est stable, c'est les pompiers qui vont y aller.
Ok.
Et puis après, t'as les ambulances qui sont accompagnées du SMUR. En France, on appelle ça le SAMU.
Ah, c'est la même chose.
C'est ça.
Ok.
Et là, du coup, c'est un infirmier, un médecin et 2 ambulanciers qui arrivent.
Ok, ça marche.
Donc, ça dépend un peu.
Et toi, du coup, tu tournes entre tous ces rôles-là.
Ouais.
Donc, t'es formé sur tous ces rôles-là.
C'est ça. Tous les jours, tu changes, en fait. Tu fais jamais la même chose.
Ok. Est-ce que, par exemple... Oui, j'allais dire, c'est quoi ta journée type? Mais du coup, t'as pas de journée type, quoi.
T'as pas vraiment de journée type. En plus, dans un service d'urgence, tous les jours, tu vas avoir quelque chose de différent. Par exemple, le matin, tu vas arriver... Tu vas avoir des patients qui ont passé la nuit ici, tu les récupères, ils sont stables. Tu commences ta journée tranquille, tu fais tes vérifications en fonction du poste où t'es. Et puis, si ça se trouve, 2 heures après, ça va être le bordel pas possible, le service, il sera plein, tu vas finir sur un arrêt... Enfin, on appelle ça un arca, mais je veux dire un arrêt cardiaque.
Okay.
Enfin, ça peut passer de calme à gros bordel en l'espace de 2 heures.
Ça dépend des patients qui viennent et des accidents, quoi.
Ouais.
Ok. Et du coup, est-ce que t'as des gens qui viennent aux urgences, qui sont un peu hypochondriaques et qui sont en mode... Attends, là, j'ai ça, je suis sûre. En vrai, vaut mieux venir pour se faire diagnostiquer si t'as un petit doute et tout, mais au final, t'as des trucs où pas grand-chose.
Ouais, c'est ça. Bah, on a beaucoup de patients qui viennent un peu pour rien, entre guillemets.
Ouais.
Mais des fois, on leur dit, vaut mieux venir. Pour... Genre, un patient qui vient pour une douleur thoracique, on va lui dire, vaut mieux venir pour rien et que ce soit du stress ou un faux mouvement ou un truc comme ça, plutôt que ce soit vraiment genre un infarctus et que le gars, il vient pas et au final... Il fait un gros problème chez lui. Quoi, ouais. Donc des fois, on leur dit, c'est pas grave, vaut mieux venir pour rien que d'avoir plus grave chez soi. Mais t'en as qui viennent vraiment, vraiment, vraiment pour rien.
Ah ouais, genre quoi?
Et en fait, on a ce qu'on appelle nos petits habitués. Il y en a qui viennent genre tous les 2-3 jours, parfois même plusieurs fois sur la même journée, pour des conneries, mais vraiment des conneries. On a chez nous une petite dame, elle vient tout le temps parce que soit elle est constipée, soit elle va trop à la diarrhée. Et ça l'angoisse. Et du coup, des fois, elle appelle le SMUR, elle appelle l'ambulance pour venir juste pour ça.
Ah ouais?
Mais ouais, et nous, on lui dit, bah écoute, ça va, petit bisou magique,
voilà,
on lui donne un
petit
gant.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi.
Et après, elle repart. En fait, elle est contente de nous avoir vus, je pense.
Oui,
tu vois, ça la rassure.
Oui, oui, si c'est une petite personne âgée, isolée.
Bah ouais,
fou,
mais après, t'en as des jeunes aussi qui font ça. Et...
Ah ouais?
Ouais, ouais, ouais.
Genre, mode, je me casse un ongle, je saigne, je viens.
Oui. Vraiment.
Ah, vraiment?
Oui, vraiment. Une fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une dame qui est venue parce qu'elle s'était coupée en faisant sa vaisselle, je crois, il y a une assiette qui est tombée, elle s'est entaillée. Toi, tu t'attends à une grosse ouverture, que tu dois faire une suture et tout. Et en fait, tu sais, elle avait genre une petite entaille comme quand tu te coupes avec une feuille.
Ah!
J'étais en mode, vous voulez que je fasse quoi en fait? Je vais pas faire un poncement, j'ai rien à faire.
Ah oui, oui.
Donc,
bon.
Ouais, si, il y a beaucoup d'urgences inutiles, mais ça, le problème, c'est qu'après, ça encombre le service.
Ok, mais bon, donc il y a les petits bobos, mais j'imagine que... Enfin, oui, il y a quand même des grosses urgences parfois. Et
tout
toi,
temps.
C'est... Tous les jours, il y en a, des
ouais.
gros trucs.
Bah, en fait, on a un grand centre hospitalier dans la région et on couvre vraiment une grosse zone. Donc, franchement, très, très régulièrement, on a des grosses urgences.
Et c'est ouais. quoi la première fois où tu as dû faire face à, du coup, une grosse urgence? C'était quoi et comment tu as réagi?
C'était 2 semaines après que j'ai commencé à travailler. Donc vraiment, j'étais un bébé dans le service, j'avais aucune... Okay. Même moi, j'étais encore perdue dans ce que je faisais. On avait fait notre journée tranquille, et puis je pense qu'il était sur le coup de 19h. En fait, quand ils ont besoin du SMUR, le 112 nous appelle, et ils nous disent, on a besoin du SMUR sur tel
lieu... Ah, c'est pas vous, le 112?
Non, c'est en fait, le 112 a une centrale à l'extérieur,
okay.
où il y a tous les téléphonistes et tout ça qui reçoivent les appels, et eux décident... Pour telle intervention, il faut juste une ambulance. Pour telle intervention, il faudra un médecin, donc on envoie le SMUR. C'est eux qui,
okay.
c'est eux qui doivent juger, en fait. Et donc, ce soir-là, le 112 nous appelle et ils nous disent on a besoin du SMUR à tel endroit parce qu'il y a un enfant de 8 ans qui a fait un arrêt cardiaque. Donc, quand c'est un enfant, tout de suite, il y a tout le monde qui s'arrête de vivre, entre guillemets, parce que ça n'arrive pas souvent que c'est des enfants qui font des arrêts cardiaques. Et quand c'est le cas, soit c'est vraiment... un arrêt cardiaque, et donc c'est très grave. Soit c'est une connerie, et quand t'arrives sur place, le gamin, il s'était juste étouffé avec de l'eau, et en fait, il est tout rose, tout bien, comme toi et moi. Ça dépend, tu vois, ça revient un peu sur le cas de... Il y en a qui paniquent trop vite, et après, des fois, c'est vraiment des trucs très graves. Ce soir-là, j'étais pas en SMUR parce que je venais de commencer, donc j'étais dans le service normal, quoi. Et donc, notre collègue est partie, celle qui était en SMUR, en intervention sur place, et nous, tous ceux qui étaient dans le service, on se regardait en mode, on attend.
Ouais, vous aviez à attendre qu'ils reviennent, du coup,
c'est
avec l'enfant.
On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on attend. Et donc, on attend une demi-heure, une heure et quart. Et on se dit, punaise, c'est long. Bah, après, c'est normal que c'est long, parce que quand c'est un enfant qui fait un arrêt cardiaque, tu fais tout. Tu vois, tu ne vas pas dire, je masse pendant 20 minutes, et puis si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Tu donnes ton max. Et puis nous, on s'était dit, une heure et quart en intervention, c'est quand même beaucoup, donc c'est vraiment sérieux. On s'attendait vraiment à un gros truc. Et puis, on reçoit l'appel comme quoi ils sont sur le retour et qu'ils arrivent effectivement avec un enfant de 8 ans qui a fait un arrêt cardiaque. Donc du coup, un peu genre sentiment de, je vais pas dire d'effroi, mais on s'est tous mis genre en pilote automatique, on a préparé la salle de déchocage. Limite, on avait oublié qu'on avait d'autres patients dans le service, tu vois, on était tous focus sur le petit qui allait arriver. Et puis, l'ambulance a mis du temps à arriver. Je pense qu'ils ont mis facilement 20 ou 30 minutes pour arriver.
Ah ouais.
Donc on s'était dit, mais c'est pas normal qu'ils sont aussi longs à arriver, en fait.
Parce que la maison du petit était pas si loin que ça.
en sachant qu'on roule vite et tout en intervention, normalement en 15 minutes, ça devait être bouclé. Okay. Si je me souviens bien, ils habitaient pas si loin que ça. Et donc, on se disait, c'est quand même long. On trouvait ça bizarre. Et puis, on les voit arriver dans le garage, enfin.
Okay.
On voit donc les pompiers qui descendent avec le brancard et donc l'enfant. Et première chose que je vois, c'est qu'il y a un pompier sur le brancard qui est encore en train de masser. Donc là, on s'est tous regardés et on s'est dit, bah, en fait, ils ne l'ont pas récupéré. Il est toujours en arrêt cardiaque, cet enfant. On le voit rentrer dans ce qu'on appelle le SAS ambulance, okay. Donc dans l'entrée pour les ambulances. Et moi, première chose que je vois, c'est bah, du coup ce pompier qui masse l'enfant. Et quand je vois l'enfant, je le vois, il est tout gris en fait.
Oh.
Et puis là, avec mes collègues, on se regarde. Et dans notre tête, on a tous pensé à la même chose, c'est qu'on savait que l'enfant, il était déjà mort en fait, mais qu'il n'y avait plus d'espoir de le récupérer. Sauf que bah, déjà, quand tu pars sur une intervention d'un enfant à l'extérieur, tu ne peux pas le laisser mourir sur place. Tu vois, là, il était dans sa maison, tu peux pas dire aux parents, bah, il est mort, on vous le laisse, bon courage, les pompes funèbres arrivent, c'est pas possible. Non, tu vois. On le ramène à l'hôpital et on fait les choses bien à l'hôpital. Un adulte, quand il meurt à l'extérieur, on le laisse à l'extérieur, c'est la police qui vient, ils appellent les pompes funèbres, enfin, c'est eux qui gèrent après, tu vois. Et donc, y a le brancard qui arrive, donc on dit, faut aller au déchocage, telle salle, on l'installe sur notre brancard à nous, et puis on entend les parents qui arrivent. Et on entend une collègue qui dit « Allez en salle d'attente, on vous prévient dès qu'il y a quelque chose ou quoi. » Et puis, on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait continuer. Et donc, pour l'histoire, ce petit, je crois qu'il était chez lui, il avait déjà eu des antécédents, une pathologie cardiaque, parce qu'on avait vu qu'il y avait une cicatrice au niveau de son torse. Il venait d'être opéré récemment. Et en fait, tout con, il était chez lui, il buvait, je pense, un iced tea ou une connerie comme ça, il s'est étouffé. Et à cause de ça, il a fait un arrêt cardiaque. Vraiment le truc horrible, n'est pas prévu clairement qui peut arriver à tout le monde. Et donc, sur place, c'est la maman qui a commencé à masser. Elle a appelé les secours sont arrivés super vite, ils ont pris le relais. Ils ont su récupérer un petit rythme cardiaque sur place, mais vraiment tout petit. Donc ils ont dit, vite, on l'embarque, on va à l'hôpital. Et en fait, dans l'ambulance, il a refait un arrêt cardiaque. Ils ont reperdu le petit, Et en général, quand il y a un arrêt cardiaque, tu vois, quand il y a un problème dans l'ambulance, l'ambulance s'arrête sur la route, on stabilise le truc et après on se remet en route. Mais là, ils se sont dit, on ne peut pas s'arrêter, il faut qu'on fonce. Mais c'est pour ça qu'ils avaient mis autant de temps à arriver en fait, à l'hôpital. Et donc, on prend en charge le petit, on continue le massage. Et c'était la première fois que je massais quelqu'un vraiment. Genre, j'avais jamais fait un massage cardiaque parce que quand t'es stagiaire, t'es là, t'observes, t'oses pas trop, enfin voilà. Là, c'était la première fois que je massais, et moi, je m'étais dit, la première fois que je vais masser, ça va être un adulte, pas un gamin de 8 ans que j'ai peur de lui péter les côtes dès que j'appuie sur son torse, quoi. Et je me souviens, donc, on était face à face avec ma collègue, on alternait le massage, t'as les autres qui faisaient les médicaments, il y avait les médecins autour, enfin, c'était un peu l'agitation. On a fait ça encore pendant 45 minutes, je crois. Donc, je pense qu'il a eu 2 heures de réanimation au total, ou un truc comme ça, mais
c'était fini.
Et puis, toi, quand t'es dans le truc... Tu fais pas attention à ce qu'il y a autour.
Tu veux pas lâcher, quoi.
T'es vraiment... Tu vois, là, moi, je m'étais mise au massage, donc j'étais en mode, faut que je masse. Je pense à rien d'autre. Et puis, quand on entend le médecin qui dit, on arrête, fini, genre, heure du décès, machin et tout, là, toi, t'arrêtes, du coup, et puis tu relèves la tête, tu prends conscience du truc, et tu dis, putain, il y a les parents qui sont en salle d'attente. Tu vas devoir leur dire que leur petit bout de 8 ans, il est décédé.
C'est horrible.
Et puis à ce moment-là, on a tous pris conscience de ça parce que je regardais mes collègues et je voyais, on avait tous les larmes aux yeux, on était tous cachés à aller. Enfin, ça arrive pas souvent et quand ça arrive,
tu te rappelles toute ta vie, quoi.
C'est ça.
Ouais, ça marque. Donc ah oui, au bout de 2 semaines, t'es plongée dans le bain directement.
Ça, c'était vraiment ma première grosse urgence parce que c'est pas commun, quoi. Depuis, j'ai pas eu de nouveau.
T'as pas eu de trucs aussi choquants que ça.
Sur un enfant, non.
En même temps. Tant mieux, ça veut dire
tant mieux. Mais ça arrive pas souvent, mais tu vois, quand ça arrive, c'est...
8 ans, c'est pas facile, non, mais c'est aussi un... faut avoir aussi plusieurs rôles, quoi. Tu soignes, mais aussi après, ça s'arrête pas là, quoi.
Tu dois prendre en compte l'aspect psychologique par rapport aux parents, mais toi, t'es là et t'as qu'une envie, c'est de te mettre à brère parce que t'as pas réussi à sauver un enfant, tu vois. Sauf que tu peux pas pleurer parce que c'est pas ton enfant, t'as pas le droit.
Tu dois être rassurant pour les parents.
Tu dois faire montrer que t'es une présence pour eux, que t'es là pour les soutenir. Alors qu'au fond, t'as juste envie de te mettre à chialer, quoi, c'est tout.
C'est pas dur, du coup, pour toi d'être dans ces situations qui sont hyper stressantes et de garder la tête froide et de comment t'arrives à gérer, du coup, le stress et le juste. Tu fais ton taf, tu coupes. Parce que moi, je sais que je vois un enfant de 8 ans, tu vois, qui a un arrêt cardiaque. Je pense direct à mon petit frère qui a quasiment le même âge. Ouais. Et je pense, je perds mes moyens. Enfin, comment t'arrives à justement gérer ça?
En fait, c'est très bizarre à dire. Mais quand t'es sur le moment, t'y penses pas, en fait. Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est le cas de mes collègues aussi. Quand on est dans une situation d'urgence, on se met vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, en mode pilote automatique. Mmh. Et tu penses plus à ta vie, tu penses plus à tes proches. Vraiment, tu te concentres sur les mouvements que tu fais et c'est après que tu y penses.
Okay.
Mais une capacité que personnellement j'ai, c'est... Enfin, je ne sais pas si mes collègues voient les choses de la même manière, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est que j'ai la perception de voir les choses de l'extérieur. Quand je fais quelque chose dans une situation d'urgence, j'ai l'impression de me regarder de l'extérieur.
Okay.
Et du coup, je ne ressens pas mes émotions.
Enfin, okay. Super tu bizarre à dire.
Ouais, c'est ça. Mm. Je me déconnecte totalement. Et c'est après que je me dis il s'est passé ça, quoi. C'était chaud.
Mais limite, tant mieux, parce que du coup, dans le moment, t'es focus sur tes gestes, sur tes trucs et tout.
Ouais.
Et tu laisses pas tes émotions rentrer en jeu.
Non, et je pense que c'est ce qu'il faut, parce que si tu commences à penser, à ton oncle qui a fait tel problème et oh, c'est la même chose que ce monsieur-là, c'est pas possible, parce que du coup, t'interfères trop avec tes émotions et tu sais plus faire une prise en charge correcte du patient.
Et quand tu rentres chez toi, genre le soir après et tout, ça te. Ça tourne pas trop dans ta tête et tout.
Je vois ce que tu veux dire, mais pas trop. En fait, quand je rentre sur le moment. J'ai besoin d'en parler avec mon copain, avec ma mère, avec ma soeur. Enfin, vraiment, j'appelle tout le monde, limite, je fais des vocaux d'une heure à tout le monde en mode hey, c'est passé ça, j'ai fait ça, ça s'est fini comme ça et tout. Et une fois que j'ai tout raconté, c'est bon, genre, c'est sorti et je passe à autre chose.
Ok.
Et c'est horrible à dire, parce qu'en vrai.
Ouais, mais après, tu vois tellement de choses choquantes, traumatisantes toute la journée que limite, vaut mieux que t'aies trouvé cette routine de tu racontes quand t'as besoin et tu après voilà. Mais oui, c'est vrai que si tu gardais tout pour toi, au bout d'un moment.
Non, après, il faut juste pas que je me reprenne tout dans la figure dans 20 ans, tu vois.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi.
Ce qui est bien, en tout cas, dans mon service à moi, ce qui est bien, c'est qu'on a une cellule psychologique. Et quand il se passe un gros truc, par exemple, avec cet enfant de 8 ans, là, ça nous avait tellement tous un peu ébranlés que le lendemain, on avait une cellule psychologique qui était venue et on avait fait une séance tous ensemble, on avait raconté ce qui s'était passé, ce qu'on ressentait par rapport à ça. Non.
Ah bon, ça va, c'est...
Enfin, moi, j'aime pas trop parler de tout ça, mais...
Ouais, mais des fois, c'est bénéfique quand vois des choses que t'es pas censé voir en tant que...
Non, ouais, parce que des fois, tu vois vraiment quand même des choses que t'es pas censé voir.
Est-ce que t'as vécu une autre expérience un peu traumatisante comme ça pour toi?
Ouais, tout à fait. C'était il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un patient qui est venu, mal de tête, basique. Ça faisait depuis 24 heures qu'il avait mal à la tête. Quand il prenait un Doliprane, ça passait, vraiment...
Rien d'inquiétant,
c'est ça. Tu te dis, le gars, il vient, il est un peu stressé, il est un peu nerveux. Bon, on va le prendre en charge et ça va aller mieux. Au final, je l'ai amené aux toilettes pour une boutique. Je l'ai attendu. D'habitude, j'attends pas mes patients quand ils vont aux toilettes. Mais là, j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit, je vais l'attendre.
Okay.
Et en fait, au moment de sortir des toilettes, il s'est écroulé au sol. Il m'a appelé à l'aide, il s'est écroulé au sol.
Ok. Et t'es rentré dans les toilettes?
Je suis arrivée à côté de lui. Mais moi, 6 mois d'expérience, j'ai pas encore trop confiance en ce que je fais. J'étais un peu perdue. J'essaye de reprendre mes réflexes et de me dire est-ce qu'il y a un pouls et tout machin. Je vois que le patient, en fait, il tend à aller vers l'arrêt cardiaque, en fait. Okay. Et je me dis ok, il y a un sérieux problème. Donc, je me dépêche d'appeler mes collègues, les médecins, tout ça. On essaye de le ramener dans la salle de déchocage parce que bon, monsieur, il faisait quand même deux fois ma taille et tout. Donc, à porter toute seule, c'est pas évident.
Okay.
On le ramène en salle de déchocage. Et. Effectivement, monsieur faisait son arrêt cardiaque parce qu'il était genre à 32 fréquences et il faisait que descendre au niveau de son rythme cardiaque. Donc on masse pendant, je pense, facilement une demi-heure, 45 minutes. Et puis, tu voyais la tête de monsieur, il était tout mauve, il bavait partout. Enfin, il était... Nous, on pense qu'il a fait une rupture d'anévrise, mais...
Qui était liée à son mal de tête.
Qui était liée à son mal de tête, du coup. Mais nous, on l'avait pas forcément... Je vais pas dire qu'on l'avait pas pris au sérieux, mais tu peux pas te dire, le gars vient parce qu'il a mal à la tête et au final... Il décède.
Oui.
Tout simplement.
Oui, ça s'est passé en quoi? Une heure, tout ça?
En l'espace d'une heure. Un peu moins d'une heure. Donc, moi, je vois mon patient, je rigole avec lui et tout.
Ouais, donc là, une heure plus tard, c'était fini.
C'était fini. Et il était décédé. Et ça... Enfin, ça, moi, ça m'a choqué en tout cas.
Oui, tu m'étonnes.
Parce que je m'y attendais pas. Et je me suis revue parler avec lui.
Ouais, personne
tout allait bien, on rigolait. Et puis.
Tu ouvres la porte, des toilettes.
Après, c'était fini.
Voilà, quoi.
Ouais. Et ça, j'ai beaucoup repensé après.
Ça t'a un peu chamboulé après.
Ouais. Comme je disais, quand je rentre chez moi, normalement, je coupe. Et là, j'ai rien coupé, je faisais qu'y repenser. Et tu sais que quand tu fais qu'y repenser, c'est que ça t'a choqué. Donc, je savais que
là,
c'était pas normal.
Toi, là. C'est toi qui l'as découvert, c'est toi qui as appelé à l'aide.
Ouais.
C'est toi qui...
Ouais, et donc... ça, c'était la première fois que ça m'arrivait, quoi, de tomber... Enfin, d'être face à face avec quelqu'un qui fait son arrêt cardiaque. Ça m'était jamais arrivé, donc c'est chaud.
Ouais.
C'est chaud, la première fois, c'est chaud. C'est comme si toi, tu te balades dans la rue et il y a quelqu'un qui fait un malaise devant toi.
Ouais, mais ça marque bah ouais. Ouf, quoi. Ça change ta vision.
Tu sais pas quoi faire sur le moment, t'es perdu.
Ouais.
Même si t'as la formation, la première fois, t'es perdu.
Ouais, tu m'étonnes. Et est-ce que t'as quand même... j'imagine que les histoires ne se finissent pas toujours mal aux urgences. T'as une histoire qui s'est bien finie quand même, où vous avez sauvé la personne ou un truc positif?
Oui, il y a beaucoup de positifs aussi. Hein. Rien que le mois dernier, j'étais en SMUR, de garde de SMUR, et on m'a appelée pour me dire que je partais sur un accouchement. Donc ça arrive pas tout le temps, parce qu'en général, les mamans arrivent à temps pour accoucher à l'hôpital, hein, de manière normale. Et du coup, on est parti en intervention, et en fait, la maman était aux toilettes, et juste, elle a commencé son accouchement sur toilette. Elle l'a pas senti venir, comme ça, de manière naturelle. Et donc, nous, on est arrivés pile au moment pour récupérer bébé qui sortait, en fait. Et c'était une petite fille, trop mignon. Et donc, je lui ai mis son petit bonnet sur sa tête. On l'a mis dans une petite couverture.
Ah, c'est trop chou.
Et après, on l'a ramené à l'hôpital pour qu'elle aille à la maternité, quoi.
Et ça, c'était vraiment... naître un bébé, quoi. Ouais. Tu te rends compte?
Ouais, ça, c'était trop mignon.
Est-ce que, du coup, t'as déjà été dans le camion qui part en intervention, toi, ou pas?
Ouais.
Et ça se passe comment, genre, en mode, enfin, je sais pas, nous, on voit du coup de l'extérieur, il va à fond, il va super vite, machin. Dans le camion, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une organisation précise? Est-ce que, je sais pas, tu dois mettre l'alarme que pendant certains moments?
En fait, nous, quand on part de l'hôpital, on part dans la voiture, avec, donc, moi, infirmière et le médecin.
Ok.
On a un chauffeur, des fois, il y a un chauffeur, des fois, il n'y en a pas, parce que les infirmiers ont la formation pour être chauffeur aussi. Donc ça dépend en fait un peu de la répartition du jour.
Et des fois sinon c'est juste des chauffeurs qui sont pas du coup infirmiers.
Voilà, c'est ça. On a juste un chauffeur.
Ok.
Qui est là. C'est un chauffeur ambulancier et il nous conduit là où on doit aller.
Ok.
Et donc nous on part en voiture et il y a une ambulance qui part de la caserne des pompiers qui nous rejoint sur place. Donc on arrive à deux. Et par rapport aux sirènes tout ça, en fait quand tu montes en voiture tout de suite tu vois t'as un sentiment d'adrénaline.
Ouais bah oui.
Parce que tu te dis c'est bon on part, on va sur quoi, à quoi je vais m'attendre.
Ah, tu sais pas sur quoi tu vas.
En fait
quand
tu sais sur quoi tu pars. Mais le 112 te dit juste homme 65 ans, douleur thoracique. Mais
ok, il
en
t'explique
fait,
pas plus.
Quand t'arrives sur place, tu sais pas vraiment si tu vas t'attendre, si tu vas te retrouver face à un gros truc ou un truc léger. Et donc, tu mets les sirènes tout le temps.
Okay.
Parce que tu dois avertir les autres usagers de la route que t'arrives. Et quand on arrive à des gros carrefours, des gros feux rouges, là, on met une sirène encore plus forte.
D'accord.
Parce qu'on doit faire attention à pas se faire rentrer dedans par quelqu'un d'autre, en fait.
Ah oui, c'est ça.
Donc,
ça doit être stressant, ça, de voir les voitures de partout, de devoir un peu faire les slaloms.
En vrai, moi, quand je suis dedans, je trouve ça méga stylé parce que t'es là, t'es en mode, je suis prioritaire, il y a tout le monde qui s'écarte et tout, tu passes, t'es en mode. C'est surtout quand il y a les bouchons, tu sais, aux heures de pointe et tout, ça, c'est un kiff. Franchement, c'est un kiff. Et puis, au retour, quand on retourne vers l'hôpital, là, le médecin et l'infirmière montent à l'arrière de l'ambulance avec le patient.
Ok, parce qu'avant, sinon, vous êtes tous devant, derrière le pare-brise. Enfin, il n'y a personne qui est assis. Genre dans le coffre?
Ben si, c'est ça.
Ah, ok.
En fait, t'as la voiture avec le médecin, l'infirmière, le chauffeur, comme je t'ai dit, pour l'aller. Et au retour, le médecin et l'infirmier doivent aller avec le patient dans le camion.
Dans le camion des pompiers, du
c'est
coup
ça. Et les pompiers conduisent, tu sais, c'est une banquette à l'avant, là, comme un camion, quoi. Et du coup, ils sont à l'avant, ils conduisent à deux.
Ok,
il y en a qu'un qui conduit, mais...
Oui, ok. Oui, voilà. En fait, vous arrivez direct avec la voiture, mais vous ne faites pas les soins dans la voiture, quoi. Vous arrivez sur place, vous vous déposez et vous déployez votre matériel, votre savoir-faire et tout.
Ouais.
Ok.
Et on fait tout. Si le gars est dans une maison, on fait tout dans sa maison. S'il est, je sais pas, dans un centre commercial,
okay.
On met un paravent pour pas que les gens regardent et on fait notre truc à terre. Enfin, on s'adapte à l'environnement.
D'accord, ok, punaise. Bon, maintenant, on sait comment ça se passe dans les voitures. Et en parlant de voitures, moi, je sais qu'il y a un thème qui me touche. Je sais pas pourquoi ça me tient à cœur précisément et je déteste ça. C'est quand mes proches ou même n'importe qui prend le volant en ayant bu de l'alcool, du coup. Vraiment, genre, je suis la meuf reloue qui le dit à tous mes potes, vous conduisez pas quand vous êtes bourré. Lui, je peux m'embrouiller, mais vraiment au premier degré, à quelqu'un ne plus lui parler, cacher ses clés, je sais pas où. Enfin bref, c'est un sujet qui est hyper important pour moi et je le rappelle à vous qui nous écoutez, on ne prend pas le volant si on a bu, on ne prend pas le volant si on est drogué, on ne prend pas le volant si on est fatigué. Et si jamais vous avez envie de vous amuser, de faire la fête, etc., très bien, moi aussi je fais la fête, mais tu dors sur place ou alors, je sais pas, avant, dans ton groupe, tu choisis quelqu'un qui boit pas et qui vous ramène sain et sauf. Parce que voilà, ça m'énerve les gens qui font genre « Non mais t'inquiète, tout va bien, je gère, t'inquiète, c'est juste 5 verres, je gère, je sais ce que je sais faire. » Et au final, soit tu fonces dans une personne qui a rien demandé et puis ça peut être grave, soit tu te mets ta voiture en l'air dans un fossé, tu meurs pas tout le temps et t'as pas le temps des trucs graves, mais tu perds 5000 euros avec ta voiture, soit tu perds ton permis parce que tu te fais arrêter par la police. Enfin bref, il y a rien de positif avec conduire au volant. Donc on prend soin de soi, on prend soin des autres. Et voilà, c'était mon petit moment un peu chiant, meuf qui fait la morale, mais c'est important. Et du coup, toi, est-ce que t'as déjà eu à intervenir sur un accident comme ça de la route? J'imagine qu'il y en a malheureusement trop.
Ça arrive un peu trop souvent.
Genre, ça arrive combien de fois? Approximativement combien par, je sais pas, semaine? Ou t'en entends? Soit t'y vas, soit t'en entends tes collègues qui y vont et tout.
Ben, honnêtement, j'ai pas de chiffre précis, mais au moins facilement 2-3 fois par semaine. C'est,
ah
déjà,
ouais,
c'est déjà de trop.
Ouais, c'est trop.
C'est déjà de trop. Mm. C'est pas forcément tout le temps avec gravité, mais c'est déjà de trop. Et surtout, nous, cet été, on a eu un été vraiment rude. On a
ah
eu
ouais.
que des drames dans notre région. Vraiment que ça. Rien que le mois dernier, je crois, ou en juillet, je sais plus, on a eu toute une famille qui est décédée. Ouais, parce que pas forcément alcoolisée.
Okay.
Pas, c'était le père qui conduisait, il s'était pas mis une grosse race en soirée ou quoi. Juste, ils avaient passé une journée tranquille en famille, à la plage ou je sais pas où. Ils avaient fait un petit resto avant de rentrer. Et je suppose que le père, bah, comme tout père au restaurant, il a peut-être bu un verre de vin ou une connerie comme ça, mais sans exagération. Et ils ont repris la route à 1h du matin. Sauf que fatigue plus un petit peu d'alcool,
ouais.
ça fait que bah, monsieur s'est endormi au volant en fait. Et donc dans un virage de sortie d'autoroute, ben, que dans notre région, on sait qu'il faut le prendre à 30 km/h parce qu'il est très serré. Il l'a pris à 110 km/h.
Oh punaise!
Et il est sorti de l'autoroute, il a foncé dans les arbres, la voiture, elle a pris feu et
oh
ils sont tous morts. Les
oh
deux parents
Dieu.
Et les trois enfants.
Oh mon Dieu!
Donc ça peut clairement arriver à tout le monde. Et,
ouais, et puis si tu... Mais en plus, même si tu disais qu'il n'était pas complètement.
Non, juste. Bah, de la fatigue, déjà
ouais.
au volant, c'est pas bon parce que bah, les yeux ils ferment tout seuls et
ouais.
on voit pas le truc venir.
Mmh.
Et suffit qu'il y a un tout petit peu d'alcool en plus.
En plus, ça endort un peu l'alcool.
C'est ça.
Et de nuit, les lumières sur l'autoroute,
ouais.
c'est...
T'as pas beaucoup
ouais.
d'éclairage et...
Ah ouais.
Suffit que tout le monde dort dans la voiture. Enfin, il est 1h du matin. En général,
ouais,
tu t'endors quand tu roules en voiture, enfin, quand t'es passager. Donc, suffit que tout le monde dort. T'es là, t'es fatigué, tu t'endors et tout le monde meurt, quoi.
Ah ouais, bah... Oh punaise, ouais. Donc, et c'est vous qui avez dû intervenir là-dessus après?
C'est nous qui avons dû intervenir sur ça.
Ah oh, punaise.
Mais quand t'arrives sur ça, ben, c'est un carnage.
Ah ouais, surtout si elle a pris feu, tu me dis, la voiture...
Ouais, ouais, c'était un carnage.
Ah,
et ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de bruit dans notre région.
Ouais.
Parce qu'une voiture avec cinq... Enfin,
bah,
une famille complète, ça arrive pas tout le temps, quoi.
Ouais.
Souvent, c'est des jeunes, tu vois, qui rentrent de soirée, qui sont alcoolisés.
Oui, donc la plupart du temps, c'est des jeunes...
Ouais. Ben,
okay.
Moi, ma première sortie SMUR que j'ai faite, ma toute première, c'était quand j'étais encore étudiante, c'était sur une voiture qui revenait de soirée. Il était 10h du matin. Donc vraiment,
oula, bah, la soirée a
très
duré,
grosse
quoi.
Soirée. Mais nous, dans notre région, on est frontalier avec la France.
Ok.
En Belgique, il y a beaucoup de boîtes de nuit où les Français vont beaucoup. C'était une voiture française donc, qui rentrait vers la France à 10h du matin. Donc, ouais, vraiment, grosse
vraiment,
soirée.
La boîte de nuit a fermé
ouais.
tard.
Mais drogue,
oh
alcool. Ils
putain.
Roulaient à 130, je pense, sur une route à 70.
Oh putain.
Et ils ont fait ce que tu as cité tout à l'heure. Donc, ils ont passé au-dessus d'un ravin et ils se sont échoués dans un champ. Enfin... Il y en a trois qui ont été éjectés de la voiture pendant le vol plané de la voiture. Donc, ils étaient inconscients. C'était, là aussi, c'était un bordel. Ça, je m'en souviendrai toujours.
Et ça, c'est bien ou mal fini?
Ben, il y avait les trois jeunes qui étaient inconscients, qui ont dû aller aux soins intensifs.
Ok.
Parce qu'ils étaient quand même dans un sale état. Il y en avait une qui était totalement droguée, mais vraiment, elle était consciente. Mais du coup, le fait de l'accident plus le bad trip avec la drogue, elle était dans un état phénoménal. Impossible à contrôler. La police, ils ont dû venir la menotter, l'emmener.
Ah, oui.
ah ouais, vraiment, ça part dans des proportions. Après, c'est inimaginable. Donc, l'alcool, c'est pas bon.
Ah non, mais la,
la drogue,
ça m'énerve. Oh. Ah, je te jure, ça m'insupporte les gens
ouais.
qui font ça. Je ne peux pas.
Puis tu te dis, dans cette voiture, il y en avait un qui n'avait pas bu, qui n'avait pas consommé, mais juste, il n'y avait pas le permis. Et du coup, il n'avait pas pu rouler.
Ah, puis, ouais, et lui, il a pâti pour tout le monde. Enfin,
ouais, c'est ça.
En fait, je comprends pas, genre, quand. Enfin, ils savaient qu'ils n'étaient pas aptes à rouler, tu vois. Je comprends pas. En fait, je comprends pas comment tu te dis, genre, oh non, mais ça va. Enfin, moi, je
ouais.
sais quand je suis bourrée.
Ben, ça va pas.
Je le sais
tu
que
le
je suis bourrée. Tu vois les trucs flous, tu vas au ralenti.
Tu sens que ça tourne.
Tu sens, tu vois.
Quand
et même
tu parles,
si...
tu sens que t'es un peu pâteux comme
c'est
ça. Enfin,
genre, ça me viendrait pas à l'esprit de conduire. Et même si, ok, t'es juste un peu pompette et tout, genre, tu le sens quand même, tu
ben
vois.
Ouais.
Et ça m'énerve de faire ça. Et je trouve ça. Bon, là, les deux histoires que t'as racontées, c'est.
C'est deux cas opposés, mais
Bon, la famille, en vrai, c'est horrible et voilà. Mais là, les jeunes, par exemple, ils ont conduit bourrés, ils ont conduit drogués, bah.
C'est leur.
Tant pis
leur
pour faute. Eux, quoi. Enfin, fallait pas le faire. C'est horrible, mais bah, vous pouvez vous prendre qu'à vous-même. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pour ça que j'ai trop peur quand ma famille, quand mes parents, ils rentrent d'un resto tard et tout, je me dis, j'en connais plein des potes à moi qui conduisent et tout, en ayant bu ou en ayant pris de la drogue et tout. Et je me dis, c'est horrible, t'imagines, tu fonces dans une personne qui a rien demandé, genre, qui est juste, qui a zéro alcool, zéro. Parce qu'il y a rien. Et juste parce que tu penses savoir gérer et tout, genre vous foncez dedans et limite toi tu survis, mais les gens en face non. Et c'est ça qui m'énerve le plus.
Ça arrive tout le temps.
Que j'essaie. Ouais, ça m'énerve.
Ouais, je sais, bah ouais, c'est des victimes.
C'est ça, tu demandes. Mais moi quand je rentre, je suis innocente. Ça, mais je rentre, tu vois. Et j'ai trop peur, genre je fais hyper gaffe à toutes les voitures que je prends. Quand j'arrive au feu vert, je m'arrête pour vérifier qu'il n'y a pas un grand malade bien, voilà, qui fonce au feu rouge en face. C'est ça qui est horrible.
Ouais. Ah ouais, suffit que tu te retrouves sur la trajectoire de quelqu'un au mauvais moment et
en fait, c'est ça. C'est
ta vie, triste. Elle peut basculer aussi en deux minutes, quoi, clairement.
Ouais, c'est trop triste.
Si t'as pas envie d'être le Sam ce soir-là, bah, ok, tu le fais pas, mais c'est une pote qui le fait et à la prochaine soirée, vous inversez les rôles.
C'est ça.
Bah, y a rien de compliqué, mais ça rentre pas dans la tête de tout le monde.
Bah non, apparemment. Puis après, c'est des gens comme toi qui te déplacent, qui voient des horreurs, qui doivent essayer de tout réparer.
Ouais.
Alors qu'il suffisait juste de même attendre 5 heures dans ta voiture au pire avant de conduire.
Ouais, c'est ça.
Bah voilà, j'espère que grâce à ce podcast, il y a au moins une personne qui prend pas le volant et est bourrée. Je serais très contente.
C'est déjà une réussite.
Voilà. Bref, revenons du coup à toi et à ton métier et tout ça. Là, tu te vois comment dans le futur? T'as envie de rester dans cette voie-là? T'as envie d'aller peut-être, je sais pas, vers une autre spécialisation? Tu te vois comment?
Bah honnêtement, moi je suis passionnée par ce que je fais et savoir qu'au quotidien, j'aide des gens et je sauve des vies et tout ça. Franchement, ça me passionne et je me vois pas ailleurs.
Bah t'as trouvé vraiment ta place.
J'ai trouvé mon truc. Dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans un service d'urgence, j'ai su que c'était ça que j'allais faire. Et en Belgique, la durée moyenne d'une infirmière aux urgences, c'est 5 ans.
Ok.
C'est pas plus.
Ah ouais, c'est pas
parce que c'est vraiment c'est très intensif. Donc c'est 5 ans, mais moi clairement, je me vois faire. Là maintenant, à mon stade, je me vois faire plus.
Ouais.
Et je me vois. Enfin, moi, mon but, c'est de devenir encore plus compétente dans ce que je fais et de progresser en fait.
Et qu'est-ce que t'aimerais dire à ceux qui voudraient faire le même métier que toi, mais peut-être qu'ils osent pas? Peut-être par peur, tu vois, de pas être apte à savoir gérer ou de pas avoir les compétences, ou mais qui sont attirés comme envie aussi d'aider les gens, de sauver des vies.
Bah déjà, faut pas se dire j'y arriverai pas, parce que au final, moi, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui, voir les choses que je vois. Enfin, je m'étais jamais dit je suis faite pour ça. Enfin, ça a été par surprise et je me rends compte que j'ai des capacités que je soupçonnais pas. Donc, avant tout, faut essayer, faut s'intéresser au sujet. Et peut-être pas se lancer tout de suite dans les études, mais se renseigner peut-être sur les gestes de premier secours, sur la Croix-Rouge, parce que ça, en vrai, c'est déjà un petit pas vers le secourisme, au final. Donc, ça peut être déjà une petite étape pour s'intéresser au sujet.
Ok. Et est-ce que tu voudrais dire autre chose dans ce podcast, quelque chose qu'on n'a pas abordé, un message que tu as envie de passer ou pas?
Ouais.
Allez, on t'écoute, vas-y.
Je veux bien, parce que nous, cet été, on s'est rendu compte surtout des accidents de la route au niveau de tout ce qui est trottinette électrique, vélo.
Ah ouais,
faut vraiment faire attention.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup et ça peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment. Il suffit qu'il y ait une voiture qui fait une marche arrière qui ne vous voit pas, elle vous percute et vous finissez paraplégique.
Ouais.
Ça, c'est ce qu'on a vu énormément cet été.
Ah ouais.
Donc, il faut mettre des protections quand on est en vélo. Mettre un casque, je sais, c'est débile parce que quand on fait du vélo, on a l'air con avec un casque sur sa tête.
J'en mets pas, moi.
J'avoue que j'en mets pas tout le temps, mais...
Non, c'est vrai.
Quand après, tu vois les gens qui arrivent, qui se sont fait percuter en vélo par une voiture et qui sont là avec une hémorragie cérébrale, qui sont dans le coma, qui vont aux soins intensifs, qui ont, je sais pas moi, 25-30 ans, tu te dis, mais si t'avais mis un casque, t'aurais pu passer à côté de tout ça, quoi. Donc, c'est des conneries, mais... Vraiment faire attention à tout ça et la cigarette aussi, les copains.
La cigarette, ouais.
La cigarette.
Ah, ça.
La cigarette. Ça met dans des états. On parle beaucoup du cancer du poumon, mais il y a énormément d'autres maladies à cause de la cigarette.
Ah ouais?
Ouais. Ouais, ouais.
Qui sont mortelles aussi.
Qui sont tout aussi mortelles. Putain. On voit les patients maintenant qu'ils ont 60-65 ans, qu'ils ont fumé toute leur vie, qui viennent dans notre service parce qu'ils ont des poumons dégueulasses à cause d'une maladie qu'on appelle la BPCO. Et ça, c'est dû à la cigarette. Et c'est pas parce que vous voyez pas les effets tout de suite que vous verrez pas les effets plus tard.
Ouais, je suis d'accord. Écoutez bien tous ceux qui fument là. Non, c'est vrai, mais ouais. J'avoue, la cigarette, c'est vraiment horrible. C'est horrible parce que, en fait, c'est que des trucs que tu commences quand t'es jeune, t'es en mode ouais, t'inquiète et tout machin. Puis après, rendez-vous dans 40 ans, quoi.
C'est ça. Mmh. Et nous, souvent, les patients fumeurs, on leur dit, bah, vous fumez combien de cigarettes par jour depuis quand ? Ah, bah, je fume 20 cigarettes par jour depuis 40 ans. Ah !
Oula !
Ah !
Oulala ! Ouais.
Ouh, ça fait beaucoup,
là,
tout
ouais,
ça.
Ouais, mais même déjà 3, 4, 5 par jour, c'est...
Ouais, mais après, quand t'accumules sur les années, tes poumons, au final, ils sont bah, dégueulasses.
Ouais, voilà, donc arrêtez de fumer, s'il vous plaît. En plus, vous économiserez grave des sous, genre...
À fond.
Vous pourrez faire des petits restos, des petits soins, des petits spas, vous achetez des petits vêtements, c'est beaucoup mieux, c'est moins dangereux pour votre santé, en plus. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Annelise, d'être venue nous raconter ton histoire dans ce podcast, faire aussi un peu de prévention et... nous parler de la réalité des choses quand tu travailles aux urgences. Et je pense que ça aura... Enfin, j'espère en tout cas que ça aura intéressé à beaucoup de personnes qui nous écoutent et que ça aura permis à des gens de se rendre compte bah, ouais, du comportement qu'ils ont peut-être qui n'est pas parfait et même juste d'être plus vigilant en général dans la vie, quoi.
Ouais, c'est ça. Surtout être vigilant parce ouais. qu'au final, la vie, elle tient à rien du tout et tout peut basculer en une seconde, clairement.
Ouais, c'est vrai. Bon, ben...
Voilà, c'était super déprimant. Bonne journée.
J'avoue, le podcast est fini sur vous allez mourir en une seconde. Voilà.
C'est ça, quoi.
Bye bye. Faites attention en mettant pause sur mon podcast parce que vous allez être électrocuté par votre téléphone. Non, je rigole, mais non, voilà, c'est important aussi de parler de sujets comme ça. Et si vous n'avez pas envie de finir cette journée un peu sur cette touche un peu déprimante, mais c'est pas déprimant en vrai, c'est la vraie vie, c'est normal, faut le dire les choses, vous pouvez aller écouter un de mes autres épisodes un peu plus joyeux, promis, il y en a. Et sinon vous pouvez aussi attendre mardi prochain parce que je sors un épisode tous les mardis, donc voilà, merci à Annelise, merci à vous de nous avoir écoutés et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Cordialement, Zoé.
Zoe. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.